Quand on est un pro, on doit pouvoir saisir toutes les opportunités. Avec des volumes de chargement jusqu'à 22 mètres cubes, les utilitaires Renault Kangoo Van, Trafic Van et Master, assemblés en France, répondent à tous vos besoins. Découvrez notre gamme de véhicules utilitaires Renault en version thermique et e-tech électrique, prête à partir. En ce moment, 2 mois de loyer offerts.
Volume selon version, selon stock disponible. Deuxième et troisième loyer offert pour un crédit bail après paiement premier loyer d'au moins 5% de la valeur financée. Si accord DIAC, valable du 1er au 30 juin dans les points de vente participants. Conditions sur professionnel.renault.fr.
Vous écoutez
RMC.
RMC, jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme, Euro 2024.
Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten.
18h tout pile sur RMC, en direct de l'Euro. Oui, ça y est, c'est parti, on ouvre l'Euro. Magnifique émission, magnifique mois qui s'annonce dans Rotten sans flamme, comme tous les jours. Vous en avez l'habitude, on ne s'arrêtera pas tout au long de l'Euro et on sera sur place. On aura tout, l'intégralité sur RMC. Il n'y a que sur RMC que ça se passe comme ça. Et toute grande compétition qui débute, on a une équipe incroyable. À commencer par le boss du boss de chez des médias, c'est Jean-Louis Tour. Salut Jean-Louis.
Salut Jérôme, salut tout le monde.
Ça va Jean-Louis ?
Ah bah oui, on est à bloc là. Oh.
Ouais. On est avec une légende.
Oui.
C'est Jean-Michel Larquet. Salut Jean-Mi.
Bonsoir messieurs, mais il travaille même le vendredi,
Jean-Louis, maintenant. C'est l'Euro, il s'arrête plus. Imagine qu'il était ce matin à 7h du matin chez Apolline de Malherbe. Quel bosseur,
ah oui, je l'ai écouté.
Quel bosseur. Et Jean-Michel, on accueille une nouvelle recrue. Un ami de Rotten sans flamme, il est là.
Enfin, qu'est-ce que tu lui as mis?
Et j'ai toujours cru au stade brestois, c'est Eric Roy. Salut Eric.
Salut Jérôme,
ça va,
salut
Eric
à tous.
Salut Eric.
Bonjour, bonsoir la légende. Hein, je peux faire pareil à la légende.
Allez. Ça va Eric?
Eric, l'émission commence par un gros mensonge. Hein,
Quel
mensonge,
Jean-Michel.
Mais non, mais c'est entre Eric et moi.
Non, mais attends.
Pas de nos affaires.
Mais Jean-Michel, de quoi tu te mêles? J'ai joué avec Eric. Et j'en ai fait le meilleur entraîneur de Ligue 1 aussi. Comme Didier Deschamps, j'en ai fait un champion du monde. Attends, c'est incroyable. Franchement,
c'est tout ce que tu touches, c'est
fou. Ah, c'est fou, Eric. Bravo.
Eric, bien,
en tout cas, ça me fait plaisir de faire l'Euro avec toi.
On est ravis d'accueillir sur RMC pendant un mois, donc le meilleur entraîneur de Ligue 1 cette saison.
Hein. Eric The King.
Ah oui, bien sûr. Oui. Tu vas pouvoir, Eric, nous apporter ton expertise, ton regard sur tous les gros matchs de l'Euro dans Rotten sans flamme, dans l'intégral Euro, bien sûr. Et ce soir, donc, Rotten sans flamme sur l'Euro qui débute dans moins de 3 heures maintenant avec Allemagne-Écosse. Le monde entier va avoir les yeux braqués sur un homme, Jérôme. Clément Turpin, ce soir, l'un de nos représentants français sera au sifflet.
On a hâte.
Malgré toutes tes critiques de la saison, Jérôme.
J'étais le seul, ouais.
Tu seras donc l'accusé du soir. Accusé d'avoir été injuste avec Clément Turpin, hein, et tu seras face à une autre de nos recrues pour cet Euro, Stéphane Lannoy, qui interviendra sur toutes les questions d'arbitrage pendant la compétition. Il sera avec nous.
Et toujours à la Fédé.
18h30. Tu sais bien, Jérôme, fais pas l'innocent. Il a été démis de ses fonctions dans la saison. Et puis à 19h, dernier épisode de notre grande opération tout au long de la semaine.
Là, on finit par le mieux.
On a revécu ensemble les plus grands moments d'émotion du foot français. L'Euro 84, l'Euro 2000, l'Euro 96 qui nous a emmenés à 98. Et ce soir, l'Euro 2004, Jean-Michel. Là.
Qui a lancé la Coupe du Monde 2006.
Ah bon?
L'Euro 2004, 2-0. Tu me parles de 96. Voilà. Tu me parles de 96. On a lancé la Coupe du Monde 98. Ouais. Eh ben, en 2004, c'est ce qu'on a fait.
Ça nous a pas sauté aux yeux, mais tu nous raconteras ton Euro, Jérôme.
Et puis là, je vais tout raconter. Hein.
Tout?
Ah ouais. Bon, tout. Restez avec nous, je peux vous dire, il va y avoir de belles révélations.
La complicité avec Zidane aussi?
Tout. Il y aura beaucoup de sincérité.
Donc, ça c'est l'Euro symbolique à 19h. En plus de cela, Julien Cazard sera là à 18h45. Donc, pour te souhaiter la bienvenue, Eric. Il a préparé quelque chose, Julien, tout à l'heure. Et puis donc,
il a fait quelques chansons.
Oui, exactement. Et puis donc, l'expérience RMC continue encore ce soir. Hier, on a envoyé un auditeur de Rotten sans flamme à France Pays-Bas.
Ah oui, c'est incroyable.
Ce soir, soyez attentifs, vous allez peut-être pouvoir gagner vos places pour France-Pologne le 25 juin prochain. Le voyage à Dortmund, la nuit d'hôtel, le vol, la rencontre avec les équipes RMC et les deux places pour cette rencontre. Soyez attentifs à l'alerte sonore. Elle n'a pas changé, c'est le coq. Dès qu'il tombe, vous avez 5 minutes pour envoyer euro par SMS au 732-16. Ça peut tomber à n'importe quel moment. Allez, on y va, c'est parti pour un mois de régalade et on espère une grande équipe de France.
Alors les Bavaroises, ça va? Toujours en tracteur?
Vous êtes pas content?
Triplé. M'excuse pour la dernière fois, mais comme un con, j'avais oublié le frein à main, c'est pour ça que j'avançais pas.
Ça revient les pieds de Mbappé, oui. Et cette fois-ci, c'est oui. La bonne. C'est la bonne, oui. C'est la bonne.
Maintenant ça va beaucoup mieux là. On se refait un petit lièvre ou vous restez ridicule?
Bah déjà on a quasiment les meilleurs joueurs du monde à chaque poste.
Ça va, ça va. Vous les Français, vous avez toujours une grande gueule comme ça.
Je t'ai vexé là.
Je vais te faire exploser ta pute.
Je t'ai vexé là.
Et moi j'ai une question. Quand tu vois mes dernières performances, tu vois un gars perturbé?
Tu vas payer pour ton insolence.
Oui,
au mieux être insolent que ridicule.
Vous savez, un grand conquérant est un homme seul. Je me sens étranger aussi lorsque je suis loin de chez moi. Et j'ai envie de crier à une femme.
Je n'ai pas changé.
C'est donc vas-y parti. Jean-Michel, chante.
C'est parti pour l'Euro donc sur RMC. 4 semaines de folie de 15h à 1h30 du matin les soirs de match, avec donc toutes les rencontres en direct, l'after, la libre antenne. Ce soir donc l'antenne élage qui a 1h30 du matin avec Allemagne-Écosse donc à 21h. L'ensemble des 51 matchs, ce sera d'ailleurs en intégralité sur la radio 100% Euro qui est disponible sur l'appli RMC. Et on va débattre tout de suite autour des Bleus. Vont-ils assumer le statut de favori? Vous pouvez nous appeler au 32-16 pour débattre. Mais direction Munich, à quelques heures du premier match, allons prendre la température avec Nicolas Pelletier, l'un de nos envoyés spéciaux en Allemagne. Salut Nicolas.
Salut Nico.
Salut messieurs, salut à tous.
C'est le calme avant la tempête, avant l'embrasement en Allemagne.
Exactement, nous sommes à l'entrée du stade ici à Munich où les portes viennent d'ouvrir à l'instant à 18h, où les milliers de supporters allemands qui patientent devant le stade très gentiment, tout calme, ils sont en train de scanner leur ticket pour entrer et aller voir.
Alors malheureusement Nicolas, on n'arrive pas à avoir une liaison correcte, donc ça va être compliqué, mais visiblement c'est l'ambiance loin, est en train de monter. Mmh. Jérôme, est-ce qu'on va réussir à assumer notre statut de favori selon toi? Ça ne nous a pas toujours réussi dans l'histoire, on a en tête non. L'euro précédent justement.
Non, c'est vrai, malgré tout, Jean-Louis, je pense qu'il y a plusieurs favoris aujourd'hui, au contraire de 2021 ou 2020, mais l'euro s'est passé en 2021 à cause du Covid. Je trouve que là, on était vraiment parmi le favori, du moins le favori de l'euro, avec cette attaque incroyable, Karim Benzema qui allait être ballon d'or, avec Kylian Mbappé, avec Antoine Griezmann, on avait un effectif et tout le monde nous attendait et on disait l'équipe elle est encore plus forte qu'en 2018. Il y avait Paul Pogba aussi, il y en avait d'autres, il y avait des grands joueurs partout, mais ils étaient bien dans leur club. L'équipe de France rayonnait même sur les matchs de préparation. On avait gagné la Ligue des Nations, hein, Jean-Louis, hein, oui c'est ça, oui, on a gagné avec des nations, donc automatiquement en ayant le statut de champion du monde, on attendait une belle perf et puis on s'est fait surprendre parce qu'on a certainement mal géré dans l'ambiance, mal géré certains caractères. Didier Deschamps a paru pour la première fois dans une compétition un peu dépassée par rapport à cette image-là et l'ambiance du groupe. Donc méfiance. Et aujourd'hui, même si on est vice-champion du monde, j'ai pas l'impression qu'on ait dégagé beaucoup de force sur les derniers matchs collectivement. On s'est fait surprendre plus d'une fois. Je dis surprendre parce que pour certains, ils nous expliquent tous que c'est des matchs amicaux, des matchs d'entraînement, donc c'est pas grave. Moi, je trouve que c'est grave par moment de donner cette image-là et que on a pris une leçon face à un des favoris de l'Euro. Quand il va débuter ce soir l'Allemagne, on l'a pris une leçon au mois de mars. Alors pour plein de raisons, ça sera peut-être différent si on les rejoue, mais on a pris une leçon quand même et on s'y attendait pas. On peut pas dire contre le Chili, ça nous a rassuré. Et puis les deux derniers matchs cacahuètes contre le Luxembourg et le Canada, surtout le dernier contre le Canada, même s'il y a quelques absences du côté de l'équipe de France, ça m'a pas rassuré pour avoir ce statut, comme tu dis, de favori de l'Euro.
Jean-Michel.
À mon avis, on est loin d'être le favori de l'Euro. Enfin, je ne sais pas qu'est-ce qui vous donne autant de certitude. Je pense qu'il y a un favori qui nous a donné une leçon. Et puis, quelle leçon? On n'a pas touché le ballon ce soir-là. Mm-hmm. On a été dominé à peu près dans tous les domaines. C'est l'Allemagne. Et qui plus est, à domicile, on sait quand même que depuis la nuit des temps, que ce soit en Coupe du Monde ou lors des Euros,
l'équipe hôte est quand même la plus favorisée pour différentes raisons. Et l'Allemagne qui était à la rue il y a un an et demi, deux ans, s'est refait une santé au travers de son équipe nationale, mais au travers de ses clubs aussi, hein, que ce soit Leverkusen, ce soit
Dortmund,
le Bayern, que ce soit Dortmund, ils étaient tous présents dans les derniers carrés, voire les finales de Coupe d'Europe. Donc je pense que le favori, il est là. Et puis derrière, il y en a un paquet. Il y a un paquet d'équipes qui peut prétendre ça. En premier lieu, peut-être pas la France d'ailleurs. Moi, je mettrais le Portugal avant.
Ouais, c'est vrai. Tu as raison.
Moi, je mets le Portugal avant.
Vous mettez beaucoup d'équipes avant la France, j'ai l'impression.
Pas beaucoup.
Moi, j'en mets deux ou trois.
Portugal.
Ouais.
Angleterre.
Non, les Anglais, j'ai
pas l'Angleterre. Pas l'Angleterre. Mais il y a une équipe qui peut surprendre aussi, alors qu'elle a perdu ses éléments majeurs, qui est la Belgique, hein, qui a fait des bons, qui est en bonne forme, qui a fait des bonnes choses, qui s'est pas libéré de Courtois parce que c'est lui qui a pas voulu.
Mais c'est finalement, lui qui s'est libéré de la sélection.
C'est incroyable quand même ce garçon-là. Et bon, il paraît quand même que c'est une famille un peu particulière. Il n'y a pas que lui qui est difficile à gérer. Il paraît que le papa est de la même trempe. Donc, mais depuis là, tu as une équipe qui tient véritablement la route. Les Espagnols, j'y crois un peu moins. Un peu moins. Et j'y crois même un peu moins avec les tenants du titre. Donc, voilà. Donc, on est dans le peloton de tête. On suce la roue.
Bon, donc, il n'y aura pas d'excès de confiance, vu ce que tu en
Normalement, racontes. Non. Normalement, non. Et c'est pour ça, Eric, je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, comme Jean-Michel, on n'est pas le favori de l'Euro.
Eric Roy.
Ah, clairement. C'est vrai que. C'est des compétitions qui sont toujours très serrées et c'est vrai que vous les avez citées. Hein. Moi, je mets les Anglais quand même dedans parce que je trouve qu'ils ont une nouvelle génération et que. Mais il y a 4-5 équipes effectivement qui font effectivement partie des favoris. On en fait partie vraiment et je pense qu'on sera capable d'assumer ce statut si tout le monde est à son niveau. Et la grosse problématique aujourd'hui de l'équipe de France, c'est qu'on voit qu'il y a pas mal d'incertitudes sur quelques joueurs et notamment des joueurs dans l'entrejeu qui sont souvent des joueurs titulaires, Rabiot, Tchouaméni, qui n'ont pas encore joué un match de préparation. Même s'il y a des garçons derrière de grande qualité. Donc, est-ce que l'équipe sera à 100% physiquement, athlétiquement, et puis après sur le point technique, s'ils sont bien au point physiquement, ils seront capables de répondre. Mais pour l'instant, il y a quand même pas mal d'incertitudes. Moi, en fait, ce qui me préoccupe, c'est la santé réelle de cette équipe de France plutôt que les adversaires.
Ouais, en plus, pour rebondir sur la santé réelle de l'équipe de France et de certains joueurs, même Didier Deschamps, Jean-Louis, pour répondre à ta question, pour être favori, je suis désolé, tu dois avoir les grandes lignes de l'équipe de France. Aujourd'hui, est-ce qu'on sait comment on va jouer ? Non. Même Didier Deschamps se pose la question.
Est-ce qu'on sait avec qui on va jouer ?
Avec qui on va jouer ? Non, non plus. On ne sait pas. La charnière centrale ? Le côté droit, bon, j'en parle, mais bon, là, même si ça paraît aujourd'hui être Koundé qui a une longueur d'avance sur Klos ou Pavard qui peut jouer là. Bon, au milieu de terrain, le retour de Kanté a redistribué les cartes. Oui. On est d'accord. Le positionnement de Griezmann aussi, parce qu'on l'a vu contre le Canada, il a joué très haut en deuxième attaquant, contrairement à avant où il était dans un milieu à trois. Le poste de milieu gauche, est-ce qu'on va jouer à trois ou à deux, comme ça a été le cas sur le dernier match ? Donc si c'est ça, peut-être que Tchouaméni, qui revient de blessure aussi, ne sera pas titulaire. Peut-être que Rabiot, qui lui aussi a eu des soucis, ne sera pas titulaire, et c'est Kamavinga. Et puis, quid de le trio devant si on joue à trois ? Parce que si tu joues à trois devant, Kylian Mbappé, on nous a dit il a totale liberté comme au PSG, donc ça veut dire qu'il va jouer dans l'axe. Donc s'il joue dans l'axe, il faut trouver un attaquant côté gauche, alors qu'on était habitué à voir Kylian Mbappé côté gauche en équipe de France. Donc écoute, le seul poste où t'as l'impression quand même que il a une longueur d'avance sur les autres par rapport au retour de blessure de Coman, c'est Dembélé. Mais c'est tout, c'est la seule certitude qu'on a sur le secteur offensif. C'est quand même inquiétant, je sais pas ce que vous en pensez Jean-Michel et Eric, mais c'est inquiétant avant de commencer une compétition comme ça.
Bah, ce qui est certain, c'est que, on l'a dit, redit et dix mille fois, il y a fort longtemps que, aujourd'hui, si tu donnes à des, pas des spécialistes, mais à des passionnés du football comme nous le sommes, si tu donnes la liste de Didier Deschamps et que tu demandes l'équipe la plus performante que tu vas aligner, si tu donnes ça à 10 personnes, tu vas avoir 10 équipes de France différentes et vraiment différentes. Alors je ne sais pas si ça c'est un handicap. Eric peut y répondre mieux que nous, mais Eric, toi en tant qu'entraîneur, lorsque tu rencontrais le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé, tu préférais qu'il soit dans l'axe ou sur le côté? Enfin, quel était pour toi l'endroit où tu avais le plus de soucis pour le maîtriser?
C'est toujours difficile. Moi, la question qui me préoccupait, c'était de lui laisser le moins d'espace possible. Alors après, qu'il soit dans l'axe ou sur le côté, et il est évident que souvent, quand tu pars du côté, tu as un peu plus d'espace, c'est vrai. Et du coup, la problématique que j'avais, c'était que leurs attaquants, parce qu'il y avait Kylian, mais ben Dembélé, quand il démarre, ça fait aussi mal. Quand c'était le jeune également qui venait d'arriver, ça allait vite aussi. Donc c'est vrai que la problématique, c'était de laisser le moins d'espace possible. Alors, tout en jouant forcément pas dans tes 20 derniers mètres, parce que si tu joues dans tes 20 derniers mètres, tu subis complètement le match.
T'es pas à l'abri,
La problématique, elle était là. Maintenant, sur la santé de cette équipe de France, c'est vrai que nous, on se pose beaucoup de questions parce qu'on voit et il y a beaucoup d'incertitudes. Maintenant, je pense que Didier, lui, il a quand même une idée assez précise de ce qu'il va faire par rapport aux forces en présence et tout ça. Donc, est-ce qu'effectivement, il aura une défense à 4, mais qui, quand on aura le ballon, se comportera véritablement à 3 avec un Koundé qui rentrera un petit peu dans l'axe et qui libérera un Hernandez, par
ce qu'il a fait sur le dernier match.
Couloir. Donc, il a des alternatives quand même avec des joueurs qui peuvent jouer à plusieurs postes. Donc, je pense qu'il a sincèrement, sur le premier match, une idée précise de ce qu'il veut faire. Moi, ce qui me rassure aussi, c'est que, comme vous l'avez dit, alors je ne parle pas d'excès de confiance, mais justement, quand c'est une équipe qui est pas complètement
à quelques doutes
sur les derniers matchs, à quelques doutes et tout ça, et ben on redouble de concentration, on redouble aussi de d'attention, on est peut-être un peu plus craintif, donc forcément un peu plus concentré, et que quelque part là c'est là aussi on fait des grandes performances. Donc moi j'aime pas trop arriver dans une compétition, on est très sûr de notre force, on est vraiment c'est arrivé dans le passé et ça nous a pas forcément réussi.
Et
donc aujourd'hui qu'on est
quelque incertitude
sur le début de la compétition, ça me pose pas réellement
mais pour répondre à ça, tu as raison Eric, et on les a joués ces matchs là quand t'as un petit peu peur, t'es un peu plus concentré forcément parce que t'es pas sûr du niveau à laquelle tu vas évoluer, et on t'attend quand même parce que t'as la pression du résultat comme n'importe quelle grande nation du football, et l'équipe de France en fait partie. Donc tu peux être un peu plus vigilant, en effet, plus concentré, plus dans ta bulle, et c'est là souvent que tu fais des bonnes perfs. Mais n'empêche que cet état d'esprit là c'était pas l'Euro. Mais j'imagine quand même que quand tu prends une claque, et c'est arrivé très souvent hein, depuis un an, on en a pris quelques claques hein, quand même. Tu vois, la dernière en date, donc on a parlé contre l'Allemagne. Tu retrouves la préparation de l'Euro, le match. Alors je veux bien que ça soit Luxembourg, que ça soit pas incroyable, mais tu mets quand même une mi-temps pour trouver quelques repères. C'est quand même inquiétant contre le Luxembourg. Mais moi, ce qui m'a plus inquiété, c'est que ton dernier match avant l'entrée à l'Euro, c'est le match contre le Canada. Le Canada, ils en ont pris 4 contre les Pays-Bas juste avant. On peut pas dire que c'est la meilleure nation du football. Ah putain, mais on l'a vu le match quand même. Et les joueurs, ils sont quand même prévenus que attention, il y a aussi de la concurrence, il y a des postes à où il y a une incertitude, peut-être à gagner une place de titulaire dans la tête de Didier Deschamps. Et les mecs, ils répondent pas.
Alors, j'ai quelques infos à vous donner sur l'entraînement, donc qui a lieu en ce moment. Donc, Fabrice Hawkins, Arthur Perrault, Valentin Jamin, ceux qui suivent l'équipe de France, ont 2-3 choses à nous indiquer, notamment que Mbappé participe à la séance. Hier, il a été ménagé. Il a raté 4 séances d'entraînement depuis le début du rassemblement. Donc, on est toujours curieux. Là, il participe à la séance. Donc, à 2 jours de ce match contre l'Autriche. En revanche, pas de Tchouaméni, qui s'entraîne toujours à part, avec sa fracture au pied.
Inquiétant, non?
Ah bah il va pas jouer lui.
Contre l'Autriche non, mais à voir quand est-ce qu'il va pouvoir rentrer.
Ah, mais ça aussi c'est problématique. Hein. Mais bon, vas-y.
Coman aussi s'entraîne à part, il a une rhinopharyngite. Pas très grave.
Non, bah après, enfin, je sais pas. Il paraît qu'il y avait un virus fort, qui touchait.
Il y a un virus, un petit virus. Et puis, on confirme nos infos avancées hier soir. Grosse tendance pour Saliba titulaire, avec ou pas Mécano en défense centrale.
Ben là, voilà une inquiétude qui révèle, enfin, voilà une décision en tout cas qui révèle que on est loin de, y compris chez le dans le staff, d'avoir des certitudes parce que c'est quand même pas un aventurier Didier quand il préfère Saliba alors ce serait plutôt à Konaté ou
Konaté
ou,
oui.
Quand il préfère un Saliba, ça veut dire véritablement que ça doit bouillir dans sa boîte crânienne. Hein. Ça veut dire qu'il a, il doit.
Bah, il mis sur les hommes en forme quand même. Là, pour le coup, il sort d'une grosse saison avec Arsenal.
Mais même,
par rapport aux autres, c'est peut-être ça qui prime, non?
Bah, pourquoi Konaté a été nul?
Non, mais il a moins joué.
Il a moins joué, mais Konaté en équipe de France dégage.
Non, en club là.
Oui, mais ouais, mais après, attends, entre en club et Jean-Louis, il faut que tout le monde soit logé à la même enseigne. Dire, vous m'avez expliqué sans s'étendre que Giroud, il méritait d'être titulaire, même quand il jouait pas en club, parce qu'en équipe de France, il était bon. Bah moi, je pars du principe que Konaté, à chaque fois qu'il a joué en équipe de France, il a été bon. Mmh. Donc pourquoi aujourd'hui tu retires Konaté? Ouais, et Saliba au niveau international, même si t'as raison, en club, il s'est imposé à Arsenal et c'est une performance.
Et son match contre le Canada était bon.
Et ouais, mais sauf que je vais te dire, j'ai encore quelques doutes sur sa façon. Je trouve que quand il a le ballon dans les pieds, alors c'est pas forcément toujours ce qu'on demande aux défenseurs dans un premier temps, c'est vraiment de contrer les attaques adverses. Mais quand il a le ballon dans les pieds, franchement. Par moment, je trouve qu'il ne dégage pas une énorme assurance. Quoi.
Va-t-on assumer le statut de favori d'un des favoris pour l'Euro? Donc Benjamin nous rejoint au 32-16 pour débattre.
Dans Salut Benjamin. Programme.
Salut l'équipe.
Bienvenue
merci
Benjamin.
Merci de prendre à l'antenne.
Bah non, avec merci. Plaisir, avec plaisir. Alors, est-ce que tu as des doutes, toi, sur l'équipe de France ou par rapport à l'histoire et par rapport au nom, on est forcément favori de cet Euro?
Ben, en fait, je pense que pour l'Europe, on est favori. Je pense que quand on nous regarde d'un point de vue extérieur, on se dit que vu nos performances passées et les talents individuels qu'a cette équipe et notre génération, forcément, on l'est. Après, pour autant, moi, je pense qu'on a laissé un petit peu passer notre chance dans le sens où c'était plutôt 2016 ou 2021 avec cette sortie catastrophique. Je pense que là, on est vraiment sur un vent d'une nouvelle génération en Europe qui va prendre un petit peu notre relais. On est une équipe qui s'est renouvelée en termes de joueurs, mais pas en termes de stratégie. Vous l'avez dit, avec un staff et Didier Deschamps qui maintient une philosophie du jeu un peu archaïque, un peu ancienne. À mon avis, la surprise de 2018, elle est un petit peu derrière nous. Du coup, je vois plus des équipes, par exemple, comme qui, beaucoup plus stables, avec des joueurs qui sont un peu plus équilibrés à tous les postes, comme par exemple les Portugais, ou alors l'Angleterre qui peut arriver à un summum de sa génération. Voilà. Donc, et puis surtout, je voulais aussi parler du parcours de l'équipe de France, qui est à mon avis un peu compliqué. Vous n'avez pas trop parlé, mais si on regarde un petit peu le tableau, on se rend compte que la France va jouer un second de poule. Un huitième et un premier de poule en quart de finale, dans le cas où elle finit premier, bien entendu. Contrairement, par exemple, à des Anglais ou à des Portugais, qui croisent avec un troisième de poule s'ils finissent premier, et qui surtout en quart de finale affronteraient le vainqueur d'un huitième composé de deux secondes de poule. Et donc, en fait, pour moi, il y a des équipes qui ont un boulevard devant eux, comme les Anglais ou les Portugais, qui pourraient en fait arriver en demi sans avoir joué entre guillemets un favori.
Ouais, c'est pas faux, mais ça aussi, on peut toujours regarder les tableaux comme tu l'as dit, et tu as raison. Si tu finis premier,
en
toute logique, comme tu le dis, ça peut être un peu plus compliqué que certains premiers d'autres poules. Mais est-ce qu'on a aujourd'hui la certitude de finir premier de ce groupe-là? Moi, je te dis que non. Les Pays-Bas ont montré aussi beaucoup de qualité. C'est pas sûr qu'on arrive à les devancer sur le groupe, donc il faut peut-être aussi anticiper le fait de finir deuxième de groupe.
Alors, ok, je te rejoins. Alors, peut-être qu'on va faire un match nul contre les Pays-Bas, je ne sais pas, mais sur trois matchs, je pense qu'on est au-dessus des Pays-Bas. Je pense que peut-être les Pays-Bas peuvent faire une contre-performance contre la Pologne ou contre l'Autriche. Je pense vraiment que sur trois matchs, la France finira première.
Tu penses que nous, on ne peut pas faire de faux pas contre l'Autriche ou la Pologne? Moi, je vais te dire, l'Autriche, c'est quand même plus fort que le Canada. On est d'accord là-dessus?
On est d'accord.
Voilà.
On est d'accord, 100% d'accord.
Et le Canada, même s'il n'y avait pas Kylian Mbappé, mais bon, ça peut arriver. Hein. Jean-Louis a dit qu'il avait raté 4 séances d'entraînement depuis le début de la préparation. Donc c'est possible aussi qu'il soit en dedans, comme il l'a été très souvent sur les derniers matchs de l'année. Bah, tu peux te faire aussi accrocher par les Autrichiens.
Hein. C'est possible. Attention à ce problème.
Contre la Pologne.
Pour la Pologne. Match,
oui, voilà.
Bon, la Pologne,
parce que l'Autriche, à mon avis, ouais, mais sur un premier match, tu peux faire un 0-0, hein.
Non, mais le premier match, c'est l'Autriche.
C'est l'Autriche.
C'est l'Autriche lundi, Benjamin.
Pardon, l'Autriche.
On peut se mettre dans l'Euro, Benjamin. Là, attention.
Benjamin, t'as regardé les tableaux et tu nous
confonds
l'Autriche et la Pologne. Merde.
Allez, Benjamin, bon Euro sur RMC.
Merci, Benjamin. À bientôt.
Quand tu veux, au 32-16, dans une seconde. Clément Turpin sera l'arbitre du match d'ouverture. Quel honneur pour l'arbitrage français.
Il est sur le banc des accusés.
Exactement, c'est toi qui es sûrement des accusés.
Ah, je crois que
t'as été injuste avec Clément Turpin.
Injuste ?
Oui, Stéphane Lannoy va t'expliquer.
Attends, il a les bonnes lunettes, Steph.
La séance des tirs au sort va bientôt débuter ici, au kiosque à pizza. Il dépose la boîte devant lui. Il recule de 3 pas. Il sort son téléphone. Il se rapproche du QR code. Il s'élance. Et c'est scanné ! C'est scanné ! Mais qu'est-ce qui vient de se passer ? Il gagne une voiture électrique !
Jusqu'au 14 juillet, rendez-vous dans votre kiosque à pizza pour tenter de gagner des pizzas, des consoles de jeux et même une voiture électrique! Voir conditions et règlements du jeu sur lekioskapizza.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
RMC, jusqu'à 20h.
Roten sans flamme, Euro 2024.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
18h30 sur RMC. Oui, vous êtes bien dans Antenne sans flamme. Oui, on lance l'Euro qui commence ce soir en Allemagne avec cette Allemagne Écosse. On est là, oui.
La musique de Papa Schulz.
Papa Schulz, bien sûr. Rappelle les souvenirs, Jean-Michel. Hein. On est avec Jean-Michel Larquet, il est là. Éric Roy avec Jean-Louis Tour, oui. Dans 15 minutes. Ça sera
Julien Cazard
pour se détendre.
Bien sûr.
En direct d'Allemagne. Hein.
Exactement. Parce qu'on envoie vraiment tous nos meilleurs reporters en Allemagne. C'est comme ça sur RMC.
On sera pas bourré, hein, parce que là, en Allemagne.
Vite. L'homme de la soirée, Jérôme, pour le lancement de l'Euro est français.
RMC, Roten sans flamme.
Conduis-toi comme un homme. Qu'est-ce qu'il prend, mon Dieu? Et ça, ce que tu as dit? Un jeune premier d'Hollywood. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que c'est que ces façons?
Faites entrer l'accusé. Wow.
Ce soir, pour l'ouverture de l'Euro, Allemagne-Écosse, Clément Turpin sera donc au sifflet. Et l'accusé du soir, c'est toi, Jérôme, qui n'a fait que critiquer Clément Turpin tout au long de la saison. Et oui, alors qu'il est reconnu à l'international, arbitre de grands matchs de Ligue des Champions, arbitre du match d'ouverture, sélectionné pour l'Euro. Alors, on va laisser Éric Roy trancher le débat, Jean-Michel Larquet, on verra comment il se positionne, mais celui qui va t'accuser, Jérôme, c'est notre arbitre radio qui nous rejoint tout au long de l'Euro, l'ancien patron des arbitres professionnels, Stéphane Lannoy est avec nous. Salut Stéphane.
Salut Stéphane. Oui, bonsoir Jérôme, bonsoir Eric et bonsoir Jean-Michel.
Ça va Steph?
Ça va très très bien, merci.
Bon,
ça nous fait plaisir d'entendre un arbitre ou un ancien arbitre, hein, parce que dans l'année c'est dur, hein, dans Roten sans flamme.
Ah là là.
Bon. J'imagine. Ouais.
Bon, on a eu Monsieur Borghini, non? C'était pas un ancien arbitre, Monsieur Borghini?
Ah non. Joker.
Dans les années 20, non? Peut-être.
On sait recevoir. Ouais. Alors, Stéphane, il faut que tu arrives à convaincre Jérôme pourquoi il est injuste à ce
pourquoi
point avec Clément Turpin. Pourquoi les autres se rendent compte de son talent et pas Jérôme?
Ouais.
Bah, moi, je vais rester, Jean-Louis, tout simplement sur du factuel, en fait. Parce que les stats, les chiffres, le palmarès de Clément Turpin parle pour lui. Vous vous doutez bien que l'UEFA ne met pas des noms dans un chapeau et décide d'un tirage au sort complètement aléatoire, celui qui arbitrera le match d'ouverture qui lance un championnat d'Europe. Donc partant du principe qu'il désigne Clément Turpin, c'est qu'il y a un capital confiance de l'UEFA et de la commission d'arbitrage envers l'équipe Clément Turpin. Voilà, factuellement, Clément, c'est son troisième championnat d'Europe. Il est au niveau international au sommet de son art. Il a 42 ans, 2 Coupes du Monde, 3 Championnats d'Europe, une finale de Ligue des Champions, une finale d'Europa League. Et ce soir, on lui donne la possibilité de lancer le Championnat d'Europe sur de bonnes bases. Donc voilà, ses stats parlent pour lui.
Et voilà, Jérôme, t'as compris?
Ah Ah ben j'ai rien à dire là-dessus, hein, Stéphane.
Mais comment il peut avoir de telles stats et toi un jugement mieux. Aussi terrible en sur fait, son niveau.
En fait, je vais te dire,
comment
Stéphane,
il peut avoir autant d'écart. Moi, j'arrive pas à comprendre. Non, mais
Stéphane, je vais te dire, c'est très simple pour te répondre. Moi, je parle pas du palmarès et tu as raison de le mettre en avant parce que le palmarès fait de lui aujourd'hui l'arbitre numéro un pour arbitrer le match d'ouverture.
S'il était si nul, Jérôme, il arbitrerait pas.
Non, mais attention, moi, quand je parle de nullité, je parle de fait. Alors, comme tu l'as dit, toi, tu as pris des exemples dans sa carrière et tu as raison. T'arbitres pas autant de finales, autant d'euros comme ça de suite et des Coupes du Monde sans avoir du talent. J'ai jamais dit que Clément Turpin n'avait pas de talent. Au contraire, moi, je l'ai connu au tout début de la carrière, sa carrière d'arbitre, et j'étais encore joueur. Et en effet, j'ai l'impression que, c'est pas une impression, c'est qu'il avait pris le relais de votre génération, l'ancienne génération, et qui révolutionnait en quelque sorte parce qu'il était très proche des joueurs. Il y avait beaucoup de communication et j'ai adoré le Clément Turpin des premières années. Le problème, c'est que il a très vite été rattrapé par la patrouille dans le sens où très vite il a arbitré des matchs internationaux et tu l'as dit, c'est devenu un arbitre reconnu en Europe mais aussi dans le monde entier et ça tout à son honneur et mérite. Le problème, c'est que nous, quand on retrouve le Clément Turpin en Ligue 1, c'est pas le même Clément Turpin. Et moi, j'ai été dur, en effet, sur lui tout au long de l'année et de l'année dernière aussi, parce que j'ai l'impression, c'est pas une impression, c'est qu'en France, dans les instances de l'arbitrage, et t'en as fait partie, mais le problème, c'est qu'il y a la DTA et il y a le CAF, hein, dirigé par Monsieur Borghini. En fait, il y a des incompréhensions parce que nous, on voit, quand il y a l'analyse d'un week-end, et on fait l'émission tous les jours, Stéphane, tu vois. Donc le lundi, on fait l'analyse de ce qui se passe le week-end. Et que un lundi par mois, il y a des problèmes d'arbitrage. Et encore, je suis gentil. Un lundi par mois, je suis gentil. Mais on va dire un lundi par mois. Donc ça en fait quasiment 10 dans l'année de Ligue 1 qui dure 10 mois. Et que sur ce lundi-là, les erreurs d'arbitrage ou les polémiques sont souvent liées à l'arbitrage de Clément Turpin. Et à d'autres, je m'en suis pris aussi à Stéphanie Frappard, on m'a dit que je faisais une fixette, mais c'est la réalité. Et que pour moi, ils ont pas la même attitude en Ligue 1, et c'est pour ça que je suis surpris de voir que l'UEFA le place aussi haut, alors qu'en France, c'est même pas le numéro 1. Et le dernier classement le prouve, hein. Le dernier classement, c'est Monsieur Le Texier qui est numéro 1, et qui me paraît assez logique. Mais de voir Clément Turpin sur le podium de ce classement de Ligue 1, je me dis, il est protégé. Et ça, moi, je suis désolé, mais la méritocratie, et ça doit aussi avoir lieu. T'as beau avoir été un très bon il y a quelques années en France, mais t'es rentré dans le rang et ça, il faut l'accepter. Et je trouve que l'UEFA ne l'accepte pas. C'est pour ça, je trouve que c'est un peu dégueulasse de le mettre aussi en avant. Après, je lui souhaite et je suis persuadé, je te donne la parole, Stéphane, que ce soir, à l'image de ce qu'il a fait cette année en Ligue des Champions, et le dernier match de Ligue des Champions le prouve, il fasse un très bon arbitrage.
Bah, je lui souhaite et à son équipe, parce que lancer un championnat d'Europe, c'est pas une mince responsabilité, hein. Donc il a obligation de résultat avec son équipe ce soir, donc il a évidemment une pression importante sur les épaules, mais il sait faire face à la pression, donc ça va bien se passer.
Et quand Jérôme dit qu'il est protégé au niveau national,
mais c'est parce que en fait Jean-Louis, on compare deux choses différentes, c'est-à-dire que être régulier et être performant tout au long d'une saison sur 34 journées de championnat, c'est comme les joueurs, c'est extrêmement compliqué. Il y a des moments où on est moins juste techniquement, il y a des moments où on est au rendez-vous. Il est souvent au rendez-vous quand ce sont des grosses affiches. Alors je suis pas en train de dire que il prend les autres matchs par-dessus la jambe, c'est pas ça, mais être régulier sur 34 journées de championnat, vous avouerez que c'est quand même très compliqué.
Et Stéphane,
sur des compétitions internationales, ben c'est quelques matchs de Ligue des Champions sur une saison, quelques matchs d'Europa League sur une saison, et il est complètement dans son élément à ce moment-là. Donc peut-être souffre-t-il d'un manque de régularité dans ses performances en France. Mm-hmm. pour autant, ça reste franchement.
Non, mais Stéphane.
Ah non, mais c'est le tour de Jean-Michel. Là.
Stéphane, je laisse pas parler Jean-Michel, mais Steph, t'es libre maintenant, donc tu peux dire qu'il a le boulard et qu'en France aujourd'hui, il a pas la bonne attitude. Et je te dis, c'est même pas moi qui le dis. Nous, on le constate, on le voit parce qu'on analyse, mais c'est les joueurs eux-mêmes. J'ai eu combien de retours de joueurs qui l'ont connu avant et qui le connaissent aujourd'hui, et ils disent on peut plus lui parler. Et c'est quand même problématique, ça.
Ben, alors ça, c'est quelque chose pour lequel je me suis battu tout au long de mes activités à la direction de l'arbitrage. Parce que pour moi, le vrai challenge qu'ont les arbitres, c'est d'être au service du football et d'être dans l'échange et dans la proximité avec les joueurs. Or, on leur a biberonné pendant des années et pendant des années qu'un arbitre était là pour faire preuve d'autorité. Mais pardon, faire preuve d'autorité, ça n'est pas être dans l'autoritarisme, ça n'est pas avoir des postures arrogantes ou condescendantes, c'est d'être dans l'échange, et c'est quand même beaucoup plus simple. Moi, je l'ai vécu en tant qu'arbitre. Quand on est en capacité sur un terrain de dire à un joueur « pardon, je me suis trompé ».
Eh oui.
Voilà. Plutôt que d'avoir une attitude qui frise pour certains parfois l'arrogance ou la condescendance, à ne pas reconnaître qu'on s'est trompé. Mais voyons, on est humain, on fait des erreurs.
Bien sûr.
On doit être en capacité de le reconnaître. Voilà. Et il y a peut-être une différence à ce niveau-là, Jérôme.
Ouais, Jean-Michel.
Écoute, moi, je regarde avec attention. Et puis, Monsieur Turpin, c'est pas sa première saison. Moi, le paradoxe, Stéphane, c'est que le paradoxe. Et je vais parler à la place de Eric parce que j'ai suivi moi les aventures du Stade Brestois cette année. Et il y a eu une période qui date du mois de, je sais pas si ça va être janvier, février, où il y avait un match à Monaco, notamment là, dans trois ou quatre matchs.
C'était un petit peu avant Jean-Michel. C'était au mois de novembre, je m'en rappelle très bien parce que je suis allé rendre visite au staff du Stade Brestois au mois de décembre.
Ou quand même sur le mois, ils ont dû avaler quelques couleuvres. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est que Turpin, à la limite, je ne sais pas s'il est bon, s'il est très bon, je trouve qu'il a beaucoup changé, peut-être pas dans sa qualité d'arbitrage, mais qu'il a beaucoup changé dans son attitude dans l'Hexagone. Beaucoup changé, et qu'il est nommé ou qu'il est désigné pour arbitrer le match d'ouverture, alors que, objectivement, Stéphane, il n'a pas fait une bonne saison. Objectivement, par rapport à ce qu'il a fait, il n'a pas fait une bonne saison. Stéphane, ça m'interpelle. Je suis quand même. Je pense qu'on ne peut pas sélectionner un joueur si tout au long de la saison, il a été moyen. Bien qu'auparavant il ait été très bon, ça m'interpelle. Alors je ne sais pas si c'est la faute de Turpin ou si c'est la faute de l'UEFA qui l'a désigné. Je pense que c'est l'UEFA qui l'a désigné, mais je m'interpelle sur ce genre de sélection. Et
on n'a pas le temps de s'interpeller plus là.
Pour autant, Jean-Michel, vous reconnaîtrez quand même aisément qu'il a fait une très très belle campagne européenne.
Oh que oui.
Il y a rien à redire sur sa demi-finale de Ligue des Champions. Rien.
Non.
Et du coup, il avait
même trop de différences, Stéphane, entre ce qu'il fait en France et ce qu'il fait en Europe. Ça, je m'interpelle à nouveau.
Oui, d'accord.
Je m'interpelle à nouveau.
Allez, merci Stéphane. On aura plaisir à te retrouver à chaque débat autour de l'arbitrage, à commencer par ce soir. Tu seras d'ailleurs dans l'After Live après 20h pour présenter les nouveautés autour de 7 euros.
Eric était malade, là, il avait une exception.
Eric revient dans quelques secondes, Jean-Michel, t'inquiète pas. Le cas arrangé dans une seconde, à tout de suite.
RMC, jusqu'à 20h.
Roten sans flamme, Euro 2024.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
18h47 sur RMC, on est là, on est bien. Non, on finit la première heure de Roten sans flamme et on lance l'Euro qui débute ce soir, l'Euro en Allemagne, avec cette Allemagne Écosse alléchant. Oui, ça va être belle affiche.
C'est la musique de l'Euro, ça ?
La musique de l'Euro, ouais.
Faut s'y faire, c'est pas mal.
Bon, faut s'y faire, je sais pas si on va s'y faire. En tout cas, on est avec Éric Roy, on est avec Jean-Michel Larquet et avec Jean-Louis Tour. Et là, ça va être le monde, Julien Cazard, Jean-Louis.
Exactement, et on reviendra sur l'Euro 2004, le dernier Euro symbolique de la Dream Team. Oh, c'est à 19h, la masterclass de Jérôme.
Le plus bel Euro.
C'est tout à l'heure. Allez,
quelle organisation, c'était génial.
C'est Roten sans flamme.
Le Cazard enchaîné.
Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes vendredi 14 juin et ça y est, l'Euro est lancé. Il était temps, parce que depuis le temps qu'on en parle, on n'en pouvait plus. Et surtout, ce qui est formidable, Jérôme, je voudrais te féliciter. Je voudrais te féliciter. Puisqu'on a, on a récupéré peut-être la plus grande star de la Ligue 1 de l'année dernière, qui sera sûrement la plus grande star de la Ligue 1 l'année prochaine. Non, ça n'est pas Luis Enrique, c'est Roy Enrique. Évidemment, je parle évidemment du seul Eric qu'on pouvait recruter, pas Eric Dimeco. Mais je dis Eric Roy, bravo Eric. Bravo, bravo, bravo.
Merci Julien.
Non, je suis content de. Et on a rêvé de t'avoir, surtout Jérôme qui a insisté, parce que Jérôme, c'est quelqu'un qui depuis le début te défend, mais leur bec et tous les autres.
Bah, beaucoup encouragé.
Est-ce qu'on peut écouter? Ouais. Là vraiment, Jérôme va trouver que c'était vraiment.
Le grand entraîneur Eric Roy, s'il termine la fin de saison deuxième de Ligue 1.
Pas du tout.
Et s'ils font deuxième?
Pas du tout, mais c'est ça peut être un feu de paille. Mais excuse-moi d'avoir des catégories et des caps à passer. Eric, on va peut-être attendre avant de dire que c'est un grand entraîneur. Un grand entraîneur, c'est pas en entraînant Brest que tu dis que t'es un grand entraîneur. Je pense qu'avec sa façon de voir les choses, il aura du mal à passer le cap des bons entraîneurs. Et puis après, il est aussi rattrapé par l'âge. Hein.
Eh oui.
Il a tout pris.
Ouais, mais là, c'est un montage.
C'est terrible. Allô.
Non mais là c'est un montage, Jérôme.
C'était pour son bien, Eric. C'est la remise en question,
c'est l'exigence. Bah oui.
Bah oui, après t'es obligé d'en parler en bien. Oui.
En même temps, alors Eric,
il s'en fout, Jérôme, en fait.
Est-ce qu'on va inviter Eric Roy vu ce qu'a dit Jérôme? Mais le problème c'est que si on prend personne dont Jérôme a dit du mal, on a personne. Oh. On va dire que t'es celui qui s'en sort le mieux.
Oh non.
T'es un peu the king d'ailleurs. Alors, il n'y a pas que Jérôme qui dit du bien de toi, il y en a qui disent vraiment du bien de toi, c'est les Brestois, et quand même, faut quand même reconnaître que t'es le seul entraîneur de toute la Ligue 1, peut-être avec les Régis Lebris, qui a une chanson de la part de Thibaut Leplat, mais tu es le seul qui a une chanson à sa gloire, et c'est pas n'importe quelle chanson on écoute.
Je crois que c'était ça le problème de Jérôme, c'est qu'il a jamais eu de chanson.
Ah, c'est beau.
Alors, Eric, il a eu des chansons.
Bravo.
J'en étais, mais on va pas les passer à l'antenne. C'était sa période Paris Saint-Germain. Malheureusement, les chansons sur Jérôme, elles sont pas passables.
Ouais, t'étais à Rodez, toi, pourtant.
Non, mais écoute, arrête de parler de Rodez.
Non, mais je sais pas, c'est ce qu'on m'a dit.
N'empêche que alors, maintenant, tout le monde t'appelle Eric the King. Alors que nous, on sait très bien qu'il n'y a qu'un seul King qui s'appelle Eric the King, évidemment. Et lui, personne n'a chanté pour lui parce qu'il a ses propres chansons. Et n'oubliez pas qu'il faut quand même se remémorer de ses belles chansons d'Eric the King, le vrai.
Le vrai Cantona.
Ah, bien, Eric. Ah, bien, Flumino.
Ah, bien, c'est merci, c'est bon, ça ira. Je veux juste que tu te promettes, Eric, que même que tu deviens Eric the King, ne chante jamais de chansons.
Non, je te rassure. Merci. Je chanterai jamais, non. Il n'y a aucun souci pour
moi. Non, tu restes, reste un médiocre entraîneur de Brest, comme dit Jérôme, ça serait déjà formidable.
Et oui. Je souhaite rester médiocre jusqu'à la fin de ma carrière d'entraîneur.
Oh, non, mais c'est bien. Tu arrives à mettre au firmament la médiocrité, c'est rare. Et ça c'est beau. Je propose qu'on passe tout de suite au casard d'or.
C'est un nouveau concept.
RMC, Rotten sans flamme, les casards d'or.
Le troisième sur le podium du casard d'or du patriotisme, c'est Manu Petit. Manu Petit qui a dialogué avec un auditeur. Et ce qui est bien, c'est que c'est ça RMC. C'est d'abord de l'échange et dans la bienveillance.
Mais de quoi tu me parles? Tu es plus patriote que moi, toi? Moi, je suis patriote, je représente mon pays à ma entreprise. Manu, tu l'as fait, toi? Eh ben, n'y va pas, toi, déjà. Tu vois, ça sera bien. C'est ça. T'as ton avis, j'ai le mien. Tu le respectes, je te respecte, d'accord? Tu veux m'attaquer, je vais t'attaquer. Mais attention, les mots qu'on peut à toi. Viens ici.
Et comment on peut faire mieux que ça?
J'ai juste prévenir que
c'est que numéro 3
auditeurs.
Mais non.
Je veux que tu saches que c'est comme ça qu'on parle aux auditeurs, Eric. Faut pas se laisser faire. Après, lui, il est pas médiocre, il est champion du monde. Mais dis-toi que toi, malgré ton statut d'entraîneur de Brest, tu as le droit. Le deuxième, c'est Steve Savidan. Alors, on baisse d'un cran, hein, on va pas se mentir. En termes de palmarès. Sauf que lui. Non, mais Steve, attention. Bon, Mumbagna, on a vu que bon, on a vu ce que ça a donné à Marseille. Il y en a qu'un qui avait tout vu avant tout le monde, c'est Steve Savilan.
Tu as vu les vidéos là de Faris Moumbagna? Je le connais un peu, ce gamin. Quand tu es numéro 9, là c'est vraiment un poste que je connais.
Oui, oui, ça, c'est ça pour ça que c'est intéressant.
Ça, ça se voit. Ça se voit que c'est un gamin, c'est un joueur qui est fait de surface. En non, plus, ça, ce que je ne savais pas, le mangeur d'espace que c'est et le.
Alors, moi je pense qu'il mange beaucoup plus de kebab et de cheeseburger que d'espace. Mais après, peut-être qu'il a mangé une Renault Espace. Ça, c'est possible. Je pense que Moumbagna a mangé une Renault Espace. C'est tout ce que je peux comprendre dans cette phrase. Sinon, évidemment, le Casar d'or, c'est quelqu'un qui sait parler d'analyse politique. Et les analyses politiques, chez nous, c'est qui? C'est Pascal Olmeta. Ah, c'est très poignant. Écoutez, ça fout les frissons.
Bon, les amis, merci à mes parents. Ils m'ont tout donné. Le football m'a tout donné. Les vestiaires m'ont tout apporté. Le respect, aujourd'hui, il y est toujours dans les vestiaires. Aujourd'hui, mon message personnel, c'est que tout ce qui est politique, tout ce qui est autre, putain, mais carrez-vous-le dans le cul.
Merci Pascal. Ça aurait été dommage de ne pas finir là-dessus. C'est dommage si ça partait bien. On avait limite la larme à l'œil. Et puis, bon, c'est Pascal, quoi. Et puis, je voudrais finir avec
en plus,
un hommage
avec c'est ça, la dernière case
enchaînée de l'année. Un hommage à Jérôme, qui lui, c'est un grand, grand consultant. Et il nous l'a prouvé chaque jour, notamment par son élocution. À toi, Jérôme.
Mais bien sûr qu'on peut le jeter en peinture. Qui était confronté à eux, l'a pas entendu parler comme ça. Donc déjà, il y a jurisprudence là.
Plus de matchs de championnat, la Ligue 1 est terminée. Mais tout ça, oui. On attend d'avoir l'avis de Rotten sans flamme. On attend d'avoir l'avis. Les gars, on est bien accompagnés, bien sûr. On est avec notre champion d'Europe. C'est Eric Dimeco. Salut Eric.
Toute génération confondue. Donc si c'est le cas et qu'ils sont dans la continuité et qu'ils ont envie de faire bonne figuration en Coupe d'Europe.
Clément Turpin est bien meilleur en Ligue des Champions d'ailleurs.
Oui, comme bizarrement. Manque de bol pour ces deux-là et pour d'autres, c'est qu'on a malheureusement dans les matchs en jeu où il y a une grosse pression, eh ben on voit les limites de tous ces arbitres.
Comme moi qui suis la Rolls des
consultants. On pourra jamais faire mieux. Voilà. Bravo. Toi alors, il y en a un, c'est Simply the Best, l'autre c'est Simply the Brest. Ils devraient bien s'entendre. Allez, à plus tard les
gars. Merci Julien, à plus tard.
Le Casar enchaîné.
Réécoutez Julien Casar en podcast sur rmc.fr et l'appli RMC.
Et merci Eric, on te retrouvera très vite tout au long de cet Euro.
Donc, Jean-Louis, merci. Hein, ça fait plaisir de voir un Floridèche comme ça d'expertise et de bons mots.
Et on est sur RMC.
Je suis
quand
très
même,
heureux de participer à ce genre d'émission.
On fait de la radio tous les jours, c'est qu'on sait tous bien s'exprimer.
Bien sûr. Merci Eric, bravo.
Avec plaisir.
Bravo pour ton bientôt. Année, bravo.
Dans une seconde, on continue de lancer l'Euro. On sera à Munich avec nos envoyés spéciaux. À 2h maintenant du coup d'envoi d'Allemagne-Écosse sur RMC, les 51 rencontres en intégralité. Et puis on va se rappeler l'Euro 2004 dans une seconde. Jérôme, cette élimination contre la Grèce terrible, Zidane qui vomit et qui marque un coup franc dans la foulée, Steve Marley qui se blesse avec son accréditation, il sera avec nous en direct pour nous raconter tout ça. À tout de suite.
RMC 18h-20h,
Rotten sans flamme, Euro 2024. Retrouvez Rotten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.